Il racontait sa passion pour son métier, passion que partage Sonia, qui nous envoie un message sur le groupe Facebook de l'émission. Pour être chauffeur poids lourd, il faut être passionné, c'est mon cas, je kiffe mon boulot. Bonne route à tous, soyez prudents évidemment. Nous sommes le mercredi 15 mai, tiens, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Mike Oldfield, 71 ans, le musicien anglais. Évidemment, c'est pas lui qui chante. Hein. Là non plus, c'est pas lui qui chante, mais il a fait la musique. Excellent début de journée avec RTL, il est 5h.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Et avec Tom Lefebvre pour le premier journal de votre journée. À la une ce matin, Tom, ce commando armé toujours activement recherché à l'heure où l'on parle.
Après l'attaque hier d'un fourgon pénitentiaire pour faire évader un narcotrafiquant, deux agents ont été tués, trois autres sont grièvement blessés.
Et ce sera notre RTL événement dans un quart d'heure, le récit minute par minute de ce guet-apens avec des témoignages recueillis par notre reporter Valentin Boisset.
Dans ce journal également, des aides désormais aussi pour les petits travaux, le dispositif MaPrimeRénov est élargi. Et puis quand Top Chef inspire les jeunes à se mettre au fourneau, l'émission fête ses 15 ans ce soir sur M6. La question du jour sur RTL.fr. Un congé de naissance plus court mais mieux rémunéré, c'est en voie, une concertation commence aujourd'hui. Alors est-ce une bonne idée? Ce matin vous dites non à 51%.
Et comme chaque jour, vous pouvez réagir à l'actualité. Rendez-vous au 3210.
RTL Matin.
Ils sont ce matin les hommes les plus recherchés de France au lendemain de cette évasion sanglante sur une autoroute de l'Eure. Un commando de 4 hommes a attaqué le fourgon pénitentiaire dans lequel se trouvait un trafiquant de drogue. Ils ont tué 2 agents. 3 autres sont grièvement blessés. Une attaque d'une rare violence à laquelle a assisté Anaïs depuis son bus.
J'avais mes écouteurs. Là, je vois qu'à un moment, avant de s'arrêter au péage, dans le bus, en fait, tout le monde s'est jeté par terre et tout le monde rampait jusqu'au haut du bus. Et puis quand j'ai enlevé mes écouteurs, j'ai entendu des tirs. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin, quoi. C'est blindé de tirs, de balles de feu. C'est un bruit sourd et net. Tout le monde dans le bus, ils étaient paniqués. Il y avait vraiment la panique à bord. Il y en a eu prié, il y en a eu pleuré. C'était horrible. J'imaginais juste qu'il y a eu un accident. Et les policiers, ils ont tiré sur la voiture pour exploser les pneus ou quelque chose comme ça. Nous, on n'arrêtait pas de dire au chauffeur, monsieur, reculez, on va se retirer dessus. Le chauffeur, il avait peur de se prendre une tire de feu. Hein. Et donc, il y a un passager, il dit au chauffeur, est-ce que vous voulez que je prenne le volant? Est-ce que vous voulez que je prenne le volant et tout? Alors, est-ce que c'est le chauffeur ou un passager qui a réussi à s'en sortir? Mais je sais pas. En 30 secondes de temps, on est parti super vite. On a pris notre voie et puis on a tracé. Dans ma tête, ça s'est passé en 30 ans, mais en fait c'était en 5 minutes ou même 5 secondes. En fait, je pourrais pas vous dire, tout le monde était paniqué. Franchement, c'était pas simple.
Voilà, témoignage recueilli par Simon Marseille à bord de ce fourgon. On l'a dit, un trafiquant de drogue, Mohamed Amra, 30 ans, surnommé la mouche. Il a été condamné à de multiples reprises, Thomas Proutot.
Oui, derrière le visage poupin de Mohamed Amra, un parcours criminel déjà étoffé. Le trentenaire, originaire de Dreux, dans l'Eure, est né d'une fratrie de 2 enfants, fils d'une femme de ménage et d'un père absent, a déjà 12 condamnations pour vol, extorsion ou violence à son actif. Le voyou, surnommé la mouche, dans le milieu, est également mis en examen pour une tentative de meurtre. Mais ce n'est pas tout. En juin 2022, alors qu'il est en détention provisoire à la prison de la Santé, il est soupçonné d'avoir commandité depuis sa cellule un assassinat perpétré à Marseille lié au trafic de stupéfiants. Le cadavre d'un homme carbonisé avait été retrouvé dans une voiture, une balle dans la tête. Pour autant, Mohamed Amra n'a pas l'envergure d'un baron de la drogue internationale. Plusieurs sources au sein de la police judiciaire se disent abasourdies par les moyens déployés. Ce commando équipé d'armes de guerre qui a tiré de sang-froid sur l'escorte pénitentiaire. Commentaire d'un enquêteur, on n'a peut-être pas mesuré l'ampleur qu'avait pris Mohamed Amra.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL, nous serons intraitables. C'est ce qu'a promis Emmanuel Macron qui assure que tout est en œuvre pour retrouver les auteurs. L'intersyndicale appelle à une journée prison morte. Aujourd'hui, un blocage des établissements pénitentiaires. Une minute de silence sera d'ailleurs observée à 11h tout à l'heure en hommage aux victimes.
Et on sera à 6h15 avec Alexandre Cabi, le secrétaire général du syndicat UFAP, une sa justice. Et notez bien que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h40.
Le reste de l'actualité de ce mercredi est d'abord la Nouvelle-Calédonie, nouvelle nuit d'émeute. L'Assemblée nationale a adopté la réforme constitutionnelle du corps électoral il y a quelques heures. Le Congrès se réunira d'ici mi-juin pour l'entériner définitivement, annonce cette nuit d'Emmanuel Macron, qui appelle au calme après ces nouvelles violences. Il y a eu plus de 130 interpellations depuis lundi.
Nous sommes le mercredi 15 mai et le dispositif MaPrimeRénov est simplifié à partir d'aujourd'hui.
C'est cette aide pour les rénovations énergétiques, jusque-là pour d'importants travaux comme le changement d'un système de chauffage par exemple. Mais le dispositif est donc élargi, Nathan Bocard.
Oui, cette fois-ci, il s'agit bien de simplifier la vie des propriétaires, en tout cas de ceux qui font de petits travaux. Car les nouveautés d'aujourd'hui, elles ne concernent que ce qu'on appelle le parcours par geste, celui qui accompagne les petites rénovations. Concrètement, jusqu'à présent, quels que soient vos travaux, ils devaient forcément être accompagnés d'un changement de chauffage. Par exemple, pour toucher une aide à l'isolation, vous deviez aussi remplacer votre vieille chaudière à fioul par un modèle moins polluant. Or, dès aujourd'hui, vous pouvez demander MaPrimeRénov uniquement pour isoler vos fenêtres ou votre toit, par exemple. Autre changement, mais il est important, c'est que pour demander cette aide, vous n'êtes plus obligé de fournir un DPE, un diagnostic de performance énergétique. L'une des raisons, c'est que les professionnels qui réalisent ces DPE sont saturés. Ils ont trop de demandes et donc le temps d'attente pouvait décourager un peu les propriétaires. Attention, faites vite si vous voulez esquiver cette étape. Elle redeviendra obligatoire en 2025.
Merci Nathan Bocard. Le gouvernement, on le disait, lance aujourd'hui une concertation avec les syndicats et le patronat sur le congé de naissance qui serait plus court, mieux rémunéré. Emmanuel Macron propose 3 mois maximum pour les mères, 3 mois également pour les pères indemnisés à 50% du salaire dans la limite. Il y a un plafond 1900 euros par mois.
Un congé plus court et mieux rémunéré, c'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes pour cette idée? Vous votez sur RTL.fr et l'appli RTL. Dans l'actualité également, Jordan Bardella qui monte encore à 3 semaines des élections européennes.
C'est notre sondage Harris Interactive Toluna. La liste RN désormais à 31,5% des intentions de vote, loin devant celle de Valérie Ayé pour le camp présidentiel à 15%. Elle est stable comme la liste de gauche de Raphaël Glucksmann à 14%. À retenir de l'actualité à l'étranger, ces bombardements israéliens qui continuent dans la bande de Gaza. Ils ont fait plus de 80 morts ces dernières 24 heures selon le Hamas. Israël va bénéficier d'une nouvelle livraison d'armes américaines à hauteur $1 milliard. Et puis malgré les manifestations, la Géorgie a bien adopté la loi sur l'ingérence étrangère sur le modèle russe qui permet de réprimer plus facilement les oppositions.
Et puis on le disait, Top Chef fête ses 15 ans ce soir sur M6.
Grande soirée en vue pour cet anniversaire, on en reparlera d'ailleurs avec Isabelle Morini-Bosque à 6h20. Figurez-vous qu'on cuisine depuis 2005 sur M6. Top Chef, il y a aussi Le Meilleur Pâtissier, Tous en Cuisine. Et forcément, ça a donné envie aux téléspectateurs de s'y mettre, Laurent Marsic.
Oui, c'est probablement un effet auquel les concepteurs de ces émissions de télé ne s'attendaient pas.
Je prends ma carotte, je la mets dans mon laboratoire et j'en fais un tournesol.
Effet bénéfique, raconte ce chef qui officie dans l'école hôtelière Jean Drouan à Paris, là où sont organisées les sélections Top Chef depuis plusieurs années. Jamil Fattara, chef de cuisine et enseignant à l'école Jean Drouan.
Ces émissions ont permis de démocratiser la cuisine et de la rendre accessible au plus grand nombre. Nous, on le voit, en l'occurrence cette année, j'ai des différents niveaux de classe qui, grâce à ces émissions, ont eu l'envie de découvrir le monde de l'hôtellerie-restauration qui semblait un peu inaccessible auparavant.
Un art qui fait rêver les jeunes et qui rassure les parents, expliquent ces deux apprentis cuisiniers.
Selon moi, c'est l'acceptation, plus au niveau des parents, de se rendre compte que c'est hyper valorisant la cuisine.
Toutes les émissions, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, je l'ai regardé, ouais. Ça m'a donné envie de faire de la cuisine ou de la pâtisserie, d'oser le faire, voilà.
Des émissions de cuisine qui ont aussi affûté les palais des consommateurs et qui poussent les chefs à être de plus en plus créatifs.
C'est le plus moche, gustativement, pour moi, c'est le meilleur depuis le début.
Ouais, c'est impactant, hein.
Merci Laurent Marsic, on en reparlera bien sûr dans Laissez-vous tenter première à 6h20. Juste un mot de football Jérôme, ce soir il y a 2 matchs en retard de la 32e journée de Ligue 1, Nice contre le PSG et Reims face à Marseille.
Merci beaucoup Tom, 5h20, on parle de quoi ce matin?
Alors si vous êtes collectionneur de cartes Pokémon, ça peut faire sourire, mais attention, vous êtes peut-être dans le viseur du fils.
Ah oui, parce que ça peut valoir de l'or.
Ah oui.
Je signale que Jérôme Florent en a plein, vous les avez déclarés.
Il y en a plein à la maison, mais franchement.
Et vous les avez déclarés, parce qu'il faut payer des impôts.
Non, mais je devrais peut-être.
Les impôts vous écoutent.
Non, j'en ai pas. Bon message, Marina.
Allez, on souhaite un bon courage à Patricia qui est à L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne parce qu'elle nous dit « Je suis déjà partie pour le travail. Bon courage à vous et bonne journée. » On a Laurence qui, elle, a eu une petite insomnie. Elle entend la pluie sur son petit village des Vosges. Je pense que vous avez l'entendre toute la journée et les 7 jours qui arrivent parce que la pluie, c'est vraiment l'actualité en ce moment. Nathalie nous dit d'ailleurs « C'est la fête à la grenouille. » Elle est à Salanches en Haute-Savoie où la température est de 13 degrés. partager tout ça, c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Ah, un bon anniversaire aussi. C'est Petite Dom qui tient à souhaiter un bon anniversaire à Annie, son amie de Chaland en Vendée. On les embrasse toutes les deux. Et puis un petit SMS pour terminer, c'est notre fidèle Jacques de Lons-le-Saunier. 13 degrés et encore de la pluie, il y en a marre. Ouais. Mais bon, bis à tous et on vous aime.
En tout cas, merci à tous qui nous écoutaient et merci à nos invités de nous rejoindre en direct et dans ce studio, comme promis.
Je vous dis, ça sent bon.
Voilà, nous sommes ravis ce matin d'accueillir le boulanger qui fait le meilleur croissant du Grand Paris, Georges Doucet. Bonjour.
Bonjour.
Et gagnant donc de ce concours, vous avez reçu le prix lundi dans le cadre de la fête du pain.
Exactement.
Et vous êtes venu avec votre fils, Mathis.
C'est ça. Oui.
Et surtout avec les croissants qui ont gagné.
Avec les croissants. Alors là, il y en a beaucoup et je pense que toute l'équipe va se régaler. Vous avez plus de clients depuis lundi, depuis le prix ?
Non. Non, pas pour l'instant. Je pense que c'est le temps que la nouvelle fasse le tour de Paris.
Ah bah, on va vous y aider. On va en tout cas goûter ces croissants. Vous allez nous dire comment vous avez fait parce que il y avait une condition, c'était d'utiliser un beurre particulier.
Oui. En fait, tout est une histoire de famille dans la globalité. D'abord par rapport au beurre AOP Poitou-Charentes avec sa grande famille d'éleveurs laitiers. Voilà, et quand vous avez Nina Métayer en ambassadrice, on peut dire que la messe est dite, quoi.
Qui est
la plus grande pâtissière du monde, en fait, qui a été élue.
Ouais.
Voilà. Et par la suite, notre meunier aussi, qui est Moulin Bourgeois, c'est une grande famille de meuniers avec des blés régionaux.
Ouais.
Et enfin, notre famille, la famille Doucet, voilà, avec son savoir-faire.
Donc, d'excellents produits et un savoir-faire extraordinaire que vous allez nous détailler. Vous allez nous dire comment on fait un meilleur croissant, quoi.
Avec des matières premières de très grande qualité, donc ce beurre qui nous apporte des qualités organoleptiques assez conséquentes. Et puis on a aussi une petite touche de miel du Perche.
Ah bon ?
Notre apiculteur Gérard de nos gens de Rotterdam.
Vous allez nous détailler
on va sortir les croissants qui
sentent déjà bon et on en reparle dans 5 minutes.
On a très très faim. Allez, à suivre évidemment l'actualité ce matin. RTL événement dans 5 minutes. L'enquête de la rédaction. Retour sur cette attaque au fourgon pénitentiaire dans l'heure. Hier, récit minute par minute. Ce qu'on sait, nos infos, ce sera avec Valentin Boisset. Je vous rappelle qu'à 6h15, nous appellerons le secrétaire général du syndicat UFAPUNSA, Alexandre Kaby, alors que les syndicats appellent au blocage des prisons à partir de 6h tout à l'heure. Et je vous rappelle cet autre rendez-vous, 7h40, toujours sur RTL, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
J'ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Je vous revois, mais je vous avais perdu.
Alex Vizorek, la rediff. Alex Vizorek, tous les soirs avec sa visoconférence. Il parlait hier du succès du film Un petit truc en plus.
Cinéma encore, un petit truc en plus. Le film d'Artus a passé le cap des 2 millions d'entrées.
Ah ouais, film formidable, en moins de 2 semaines. Et donc, pour ceux qui se demandaient ce que pouvait désigner ce titre, Un petit truc en plus, je vous donne la réponse. Le nombre d'entrées par rapport aux autres films français. Un succès qui confirme que les spectateurs français, vous plébiscitez les films mettant en valeur avec humour des personnages ayant un handicap. Parce que c'est vrai qu'avant Un petit truc en plus, il y avait déjà eu l'effet Intouchable qui mettait en scène une personne souffrant de tétraplégie ou encore Bienvenue chez les Ch'tis. Des personnages souffrant d'habiter dans le Nord, et vous le savez très bien, Isabelle. Ou encore, plus récemment, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où les personnages souffrent de schizophrénie puisqu'ils pensent tous qu'un Dieu existe.
Alex Vizorek, que vous retrouvez tous les soirs en direct à 18h37.
Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
On jette un petit coup d'œil à vos journaux qui reviennent évidemment très nombreux sur l'attaque commando du fourgon pénitentiaire hier dans l'heure. Le choc, titre La Provence. Évasion mortelle, c'est la une du courrier Picard. Le carnage, titre La Dépêche du Midi. La sidération et les questions, ça c'est la une de nos confrères du Figaro. Narcotrafic, la gangrène, dossier à lire dans la Marseillaise qui publie le rapport de la commission sénatoriale sur le trafic de drogue, justement. 6 mois d'enquête, 6 mois d'audition, rapport sorti hier au moment de l'attaque d'Evreux, dans l'heure. Il y est écrit, je cite, que la France est submergée par le narcotrafic, avec à sa tête des trafiquants tout aussi rationnels et ingénieux que violents et corrupteurs. Ce rapport sorti hier, donc au moment de cette attaque mortelle de fourgon, dont on reviendra sur cet événement minute par minute dans quelques instants dans RTL événement.
RTL, le podcast du jour.
Et je vous conseille ce matin une lettre d'Amérique de nos correspondantes aux États-Unis, Arnaud Touche. Cette semaine, il nous dévoile les coulisses du procès de Donald Trump à New York. Un procès hors norme qui passionne l'Amérique et qui donne des sueurs froides aux milliardaires républicains. Son éventuel emprisonnement aurait même déjà été anticipé par les services secrets américains.
J'ai lu un papier qui m'a passionné. C'est un article du New York Times qui explique que le Secret Service, le service de sécurité de l'ancien président, qui l'accompagne absolument partout, a déjà anticipé l'éventuel emprisonnement de Donald Trump. Il serait séparé des autres détenus, il faudrait contrôler sa nourriture et tous ses effets personnels, c'est ce qu'explique l'article. Des agents de protection seraient là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la prison, avec évidemment des rotations. Et le papier du New York Times indique même que plusieurs prisons ont été partiellement fermées ces dernières années et qu'une aile ou une section pourrait être utilisée en cas d'incarcération de Donald Trump.
Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez une lettre d'Amérique.
RTL événement.
Il est 5h15 précisément sur RTL. On va maintenant remonter le fil des événements après cette attaque sanglante d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville dans l'Eure. Selon les représentants de l'administration, cette attaque est inédite en France depuis 30 ans. Je rappelle le bilan, il est lourd. Deux agents pénitentiaires sont morts, trois autres grièvement blessés. Alors que s'est-il passé à cette barrière de péage? RTL a reconstitué le fil des événements grâce aux vidéos et aux témoignages que vous avez pu récolter. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour à tous.
Vous avez pu remonter le film minute par minute, le dérouler. Tout commence en milieu de matinée.
Oui, il est alors 10h57 sur le petit péage d'Incarville quand le fourgon blanc et un utilitaire de l'administration pénitentiaire s'engouffrent dans le péage. À la sortie, une voiture noire les attend. Celle-ci s'engage à contresens et percute le fourgon. Quatre hommes sortent. Yves habite à 200 mètres.
On était là. On a entendu que les coups de feu. J'ai fait attention.
Vous étiez mis à l'abri, c'est ça, derrière un mur?
Ouais, derrière le mur là-bas.
Derrière un mur et sur le sol du bus pour Anaïs, qui se trouve alors à quelques mètres derrière la scène.
Dans le car, il y a tout le monde qui se jette par terre. C'est blindé de tirs. Et à plein de tirs de balles de feu.
Première minute, des dizaines de coups de feu. Les quatre hommes sont habillés en noir, cagoulés, avec des gilets pare-balles et des fusils mitrailleurs. Jérôme, lui, était dans son champ qui longe la barrière de péage.
On a commencé à entendre une fusillade. Alors, au début, c'était que du mitraillage. Des coups de feu au départ. Ouais, une bonne trentaine, je dirais.
Chacun vise des surveillants différents, les laissant s'écrouler des véhicules. Une minute s'écoule, un membre du commando ouvre la porte latérale du fourgon, la silhouette de Mohamed Amra apparaît, il descend.
Et ensuite, grosse explosion.
Un membre du commando verse alors de l'essence sur le toit de la voiture bélier, il l'enflamme.
Et puis deux derniers coups d'arme. Voilà, c'est tout.
Puis les cinq fugitifs prennent la fuite à bord de deux véhicules, eux aussi prépositionnés à proximité.
Et c'est là, Valentin, que la police et les pompiers arrivent sur place. Les fugitifs parviennent déjà à brouiller les pistes.
Oui, la police arrive très rapidement, quelques minutes plus tard, mais le commando est déjà parti. C'est à ce moment-là aussi que le maire de la commune d'Incarville, Patrick Mogard, est appelé par un administré.
C'est un administré qui m'a appelé quand j'étais en mairie en me disant « Patrick, donc il y a eu une fusillade à Incarville. » Ce qui m'a porté, c'était de savoir si les administrés n'avaient aucun risque à encourir par rapport à ces gros délinquants quand même.
La commune compte 1300 habitants. Quelques minutes, elle voit arriver le GIGN, un hélicoptère, 200 gendarmes et 100 policiers. C'est le début du plan épervier pour traquer le commando, mais en quelques minutes, les espoirs s'amenuisent. Le maire reçoit un coup de téléphone. Une découverte indique que le commando est déjà parti.
Le commissaire de police de Val-de-Reuil m'a dit qu'il y avait une voiture de brûlée constatée à la hauteur de Ouetteville et une autre à Évreux. Donc on peut penser qu'ils sont plus loin maintenant.
Brûler les voitures pour effacer les traces. On apprendra finalement qu'ils sont partis à bord d'un quatrième véhicule. Un périmètre de sécurité est alors mis en place autour du péage. C'est une scène de crime. Témoins et journalistes sont tenus à l'écart.
C'était des dingues, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, attaquer comme ça, en plus, il y a des véhicules qui arrivent derrière, des civils, des gens qui risquent de prendre une balle perdue, quoi. Même nous, aux alentours, les voisins, il y en a eu de sortie aussi. C'est quand même vachement dangereux, quoi.
Une cellule d'aide psychologique est alors ouverte pour épauler les témoins directs de la scène.
Et Valentin, ce qui marque dans cette affaire, c'est le côté très professionnel de l'assaut.
Oui, il y a l'équipement déjà, des gilets pare-balles, des fusils mitrailleurs, puis il y a le déroulé, un véritable guet-apens préparé, car une fois bloqué, les surveillants n'avaient plus le choix que d'essuyer les rafales de tir. Sur les vidéos, le placement des assaillants est aussi marquant, chacun s'attaque à un angle différent, comme si tout cela avait été répété au préalable. La procureure de Paris, Laure Becchio, a confirmé hier soir que le dispositif de ce guet-apens s'était mis en place quelques minutes avant l'arrivée du convoi.
Quelques minutes avant le passage au péage d'Ancarville, est passé dans le même sens un véhicule Peugeot volé quelques jours auparavant. Ce véhicule s'est stationné sur le bas-côté, dans l'attente de l'arrivée du convoi. Rejoint par d'autres hommes armés, descendus d'un véhicule qui suivait vraisemblablement le véhicule pénitentiaire.
Des centaines de policiers et de gendarmes sont désormais mobilisés sur cette enquête.
RTL événement, enquête signée Valentin Boisset. Évidemment, si cette affaire vous fait réagir, si vous travaillez dans le milieu de la pénitentiaire, n'hésitez pas, vos témoignages nous intéressent. Évidemment, 3210, je rappelle aussi ce rendez-vous tout à l'heure sur RTL, le ministre de l'Intérieur. Sa parole est très attendue ce matin. Gérald Darmanin en direct à 7h40 sur RTL.
RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h.
On va changer complètement d'ambiance. Je rappelle que nous sommes depuis 5h avec celui qui fabrique, qui produit le meilleur croissant du Grand Paris. Il en a reçu le prix lundi à l'occasion de la fête du pain. C'est Georges Doucet qui est venu avec son fils Mathis Doucet, boulanger dans le 12e arrondissement de Paris.
C'est ça. Le nom de votre boulangerie ?
Maison Doucet.
Maison Doucet, c'est noté.
Il y avait 117 candidats.
117 candidats, ouais.
Alors comment vous avez fait ?
Quel est votre savoir-faire, secret ? On a peaufiné une recette qui nous a été transmise par d'autres personnes, d'autres professionnels en amont.
Il y a une recette de base à respecter pour ce concours ?
Pour ce concours, c'est au niveau du beurre, surtout l'AOP
Poitou-Charentes,
et puis la forme arrondie.
Oui, du croissant.
Du croissant et le poids, quoi. On a joué vraiment au cordeau sur le poids. Nous, on a mis vraiment sur la générosité d'accent là-dessus.
Parce que le poids doit être de combien ?
65 grammes cuit.
Ouais. Voilà,
avec une marge d'erreur de 2 grammes.
Ah oui.
On était à 66,7.
Waouh.
Donc vraiment au cordeau, c'était kit au double.
Ouais.
Et en fait, ça a fonctionné. Voilà.
Alors, vous travaillez en famille, hein. Il y a Océane qui travaille avec vous, il y a Mathis, donc vos enfants,
voilà.
Votre femme aussi.
Ma femme également qui est en vente. Voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille tous ensemble. J'ai entraîné tout le monde dans l'aventure, parce que moi, je suis issu de la reconversion professionnelle à la base.
Ah, vous faisiez quoi ouais.
Moi, je travaillais dans une agence de presse financière au Palais Brongniart.
Non.
Mais rien à voir.
Je travaillais pour Jean-Pierre Gaillard, en fait.
Mais oui.
Oui, Jean-Pierre Gaillard,
qui est bien sûr.
Sur une autre radio. Ouais. Alors, mais comment vous en êtes arrivé là ?
En fait, une envie un jour qui est passée par là, et puis je me suis lancé là-dedans. Et j'ai entraîné toute ma famille avec moi, et c'est payant, quoi. Donc.
Oui, c'est payant parce qu'ils apprennent à vos côtés. Et, voilà. Et Mathis, vous allez poursuivre dans cette voie-là ?
Moi, pour l'instant, je suis en apprentissage encore. Mmh. Il me reste encore 2 années après l'année que je suis en train de faire. Et après, je compte bien continuer sur toute ma vie, quoi.
Mais dans ce domaine-là, dans le domaine
de la pâtisserie.
D'accord, dans le domaine de la pâtisserie.
Qu'est-ce qui vous plaît ? Parce qu'on entend souvent que c'est un métier difficile, il faut se lever très tôt, ce sont des journées très longues, il y a le prix de l'énergie qui a flambé, on en a beaucoup parlé, il y a des difficultés aussi.
Il y a plein de difficultés, on est passé au travers du Covid, de la crise énergétique comme vous venez de le rappeler, et ça a été vraiment difficile. Maintenant, c'est là qu'on constate qu'on est passionné par la chose, après être passé par tout ça en fait. Mais ce qui nous anime, c'est vraiment de fournir des produits de qualité aux gens, et notamment aux structures qui environnantes à notre établissement. On a beaucoup d'étudiants et ça nous tient à cœur de fournir aux jeunes des produits de qualité.
Alors, le meilleur croissant
est à mes côtés.
Il ressemble à quoi ? On va le goûter.
Oui.
On va le goûter en
Alors,
direct.
Déjà, on peut dire que l'odeur est formidable.
Ouais, ouais.
Et alors que les croissants étaient dans les boîtes en carton,
on sentait déjà
l'odeur. Alors que je vous explique, quand on a ouvert le carton, ces voluptes de croissants.
Oh, allons-y, parce que...
Alors, donc ils ont une belle forme. Alors, il y en a des droits et donc des arrondis. L'arrondi,
des
c'était
courbés,
pour le concours.
Ouais, les courbés, c'était des pour le concours. Au niveau de la forme, c'était demandé dans le règlement du concours.
Parce qu'on peut arracher les petits coins comme ça, c'est agréable.
En fait, ça apporte ce côté un petit peu plus croustillant, puisqu'il est aux extrémités. Voilà.
Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est légèrement gras, pas trop, en fait. Voilà. C'est juste ce qu'il faut, en fait.
On a un certain équilibre, c'est souvent ce qui est dit par nos clients sur Google. En fait, c'est qu'on a un certain équilibre entre la matière grasse et la matière feuilletée, en fait.
Mais oui, parce que trop, ça ne va pas du tout, pas assez, il faut un petit peu de beurre, quand même.
Alors ça
donc, c'est vraiment un métier difficile que je fais.
On teste
je le goûte.
Le meilleur croissant du Grand Paris, en direct. Alors, verdict, Marina, il est 5h24. Sur RTL.
C'est très très bon et c'est tout en subtilité en fait. Ouais. Je peux en reprendre ?
Allez-y.
C'est marrant, il y a un petit goût. Je ne sais pas de quoi.
Ah. Vous avez du miel.
Ah, le miel, vous en parlez.
Du miel, ouais, tout. Ah. Ouais, c'est notre apiculteur Gérard Duperche qui nous fournit ça. C'est aussi une structure familiale.
Une pointe de miel.
Oui, ouais, est-ce que vous voulez que je vous en passe un ?
Ah bah oui, volontiers. On va continuer l'émission quand même.
Bien sûr.
Il est 5h24, on va écouter la chronique de Tom. Mais on va goûter les croissants, évidemment. Georges et Mathis, vous restez avec nous sur RTL et on vous en remercie.
Miam.
5h24.
Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. RTL Matin, l'angle éco.
Le secteur du cuivre est en pleine ébullition et le cours de ce métal, pourtant banal a priori, explose.
Si le métal rouge est aussi demandé, c'est qu'il possède une qualité précieuse, c'est un excellent conducteur de l'électricité. Oui. Or, toute l'activité économique mondiale est en train d'être électrifiée, évidemment pour diminuer les émissions de carbone.
Le cuivre est donc le métal de la transition énergétique d'une certaine façon.
Oui, et je vous parlais des réseaux, mais il y a aussi les voitures. Un véhicule électrique contient 4 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique.
L'angle éco à 7h35.
RTL Matin, on vous en parle.
On est en train de goûter le croissant de Georges et Mathis Doucet. Tom, chaque matin, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous nous dites aujourd'hui donc que les collectionneurs de cartes Pokémon pourraient être dans le viseur du fisc.
Eh oui, ça fait presque 30 ans que ces petites cartes suscitent l'engouement. 8 Français. 8% des Français, pardon, les collectionnent, hein, dont vos enfants, Jérôme. Une simple passion pour certains, mais on le disait, un vrai business pour d'autres. Eh bien, si c'est votre cas, soyez vigilants, car l'administration fiscale vient donc de préciser certaines règles autour des échanges des cartes Pokémon. Je parle pas pour les enfants dans la cour de récréation, mais surtout pour ceux qui le revendent à des ventes folles, des sommes folles, voilà, exactement. Oui. C'est devenu un investissement très important. Sachez que la carte la plus chère au monde a été vendue, tenez-vous bien, 4,5 millions d'euros.
Non.
Voilà, c'est un Pikachu Illustrator.
Bah, Jérôme, va falloir. Vous êtes en train de manger des croissants, mais va falloir regarder les Pokémon de vos enfants. Alors, pourquoi le fisc va désormais être vigilant ?
Eh bien, puisque jusque-là, il n'y avait pas de règles. Mais un bulletin officiel des finances publiques donc a clarifié le statut de ces petites cartes et elles ne bénéficient pas du statut d'objet de collection. Elles sont considérées comme des biens de consommation.
Et ça change quoi ?
Eh bien, beaucoup de choses, puisque la taxe est beaucoup plus importante. Si ces cartes étaient rangées comme des objets de collection, comme c'est le cas des cartes postales, des timbres ou des vieilles pièces de monnaie, toute plus-value supérieure à 5000 euros, donc il faut quand même la vendre assez cher, la carte est taxée 6,5%. Mais là, comme les cartes Pokémon sont considérées comme des biens de consommation, la taxe est plus importante, 36,2% sur la plus-value, ça n'a rien à voir. Il y a une partie pour les impôts, donc sur le revenu, l'autre pour les prélèvements sociaux. Forcément, ça va pénaliser les collectionneurs, car ils vont perdre une part importante du bénéfice. Et pourtant, ils sont nombreux. Sachez que depuis la crise du Covid, la demande autour de ces cartes a bondi, elle a été multipliée par 8, c'est énorme, avec des prix de cartes qui ont augmenté aussi de 25%. Oui, il y a beaucoup de fans de Jean-Luc.
De Jean-Luc, c'est-à-dire.
Ah oui, vous regardez comme un.
Oui,
un Jean-Luc un peu particulier.
Je connais un Jean-Luc, mais c'est mon père. Mais
qui fait 40 cm de haut et 7 kg. Et oui, je veux bien parler de Pikachu. Certains l'appellent Pika.
Il s'appelle Jean-Luc.
Eh ben en réalité, il s'appelle Jean-Luc,
ah
absolument.
Bon
il y a une confusion générale. En fait, Pikachu, c'est le nom de l'espèce. Comme nous, on est des humains. Mais voilà, Marina, je ne vous appelle pas humain, je vous appelle Marina par votre prénom. Eh bien, Pikachu, c'est l'espèce, donc. Et celui qu'on voit dans le dessin animé, celui de Sacha, le dresseur, eh bien, il s'appelle Pikachu. Il s'appelle Jean-Luc.
D'accord.
J'en perds mon latin.
Et franchement, c'est une info, ça, non ?
Eh oui, c'est une vraie info. Voilà, en fait, c'est une référence à Star Trek et au personnage de Jean-Luc Picard.
Eh ben merci beaucoup Tom Lefebvre. Je ne sais pas si chez les Doucet on collectionne les cartes Pokémon.
Si ma fille en a collectionné des.
C'est vrai.
Je les ai pas gardées malheureusement.
Ah bah vous auriez dû.
Passer à côté d'une fortune. Un extrait de vos grosses têtes, c'est tous les jours 15h30, 18h avec les fake news.
Un message d'alerte extrêmement grave a été envoyé hier sur les smartphones des Parisiens. C'était pour les prévenir que s'ils voulaient assister à la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain, il fallait partir maintenant.
Jean-Philippe Janssen.
Oui,
corps démembré retrouvé à Paris dans une valise. Philippe Croizon a tenu à rassurer ses proches. Il va bien et il sera même dans la valise RTL dès la semaine prochaine.
Roselyne Bachelot.
Festival de Cannes. Judith Godrèche a publié un communiqué pour faire savoir qu'il était scandaleux d'avoir choisi un réalisateur qui s'appelle Dupieux pour la cérémonie d'ouverture.
Flamme olympique. Aujourd'hui en Corse, le relayeur qui s'est cassé la gueule avec la torche au milieu du maquis a tenu à s'excuser auprès des pompiers qui luttent toujours contre l'énorme incendie. Mais c'est à cause de sa cagoule qu'il avait mis devant derrière.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30,
18h. Vous êtes en train de saliver.
Travail d'investigation, nous testons.
On peut parler à la bouche pleine, hein, Jérôme.
Alors vous ?
Le meilleur croissant du Grand Paris.
Et vous en êtes à votre deuxième, non, là ?
Non, c'est le premier.
C'est le premier,
voilà.
D'accord.
Nous sommes avec Georges Doucet, donc boulanger dans le 12e arrondissement, qui a remporté le prix lundi.
Du meilleur croissant AOP, beurre AOP Poitou-Charentes.
Voilà, ça nous réconforte en ces temps de pluie et de grisaille.
Oui, c'est encore une journée instable, avec des averses, des orages, et puis parfois des moments d'éclaircies. Il y a quand même une zone où il y a un peu plus d'éclaircies, la région parisienne en fera partie, comme la Normandie, le centre-Val de Loire, et cet après-midi la Bourgogne et les Hauts-de-France, dans le sens où vous aurez beaucoup moins d'averses, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il y aura aussi beaucoup de moment assez sec et puis ensoleillé. Mais alors partout ailleurs, des nuages, des averses, des orages. Il y a la perturbation d'hier qui stagne sur les régions de l'Est, hein, donc de l'Alsace à la Lorraine, en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et puis sur la moitié ouest du pays, c'est un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation, mais très instable, donc avec des averses nombreuses et ça tournera à l'orage cet après-midi.
Les températures,
comme hier, sauf dans le nord-est où elles vont fortement baisser, parce qu'hier on était aux alentours de 26-27. Là, vous serez plus aux alentours de 18-19. On aura entre 14 et 22 degrés, 21 degrés en général à part, sur le pays. À Paris, il fera 21 et en Corse un peu plus, 22-24.
Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Au lendemain de cette attaque de fourgon pénitentiaire, le détenu en fuite est toujours recherché ce matin.
Et vous entendrez la sidération d'un des membres de sa famille dans un document RTL et M6. Alors, quelle réponse du gouvernement après cette attaque qui a fait deux morts? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de RTL à 7h40. Dans le reste de l'actualité, jusqu'à 11 milliards d'euros de retombées économiques attendues avec les Jeux de Paris cet été. Et Marseille en a eu un avant-goût avec l'arrivée de la flamme.
Après votre journal, RTL autour du monde en Ukraine, aux portes de la dernière ville passée sous le contrôle des forces russes.
Et puis le cyclisme avec une deuxième victoire française sur le Tour d'Italie.
RTL Matin.
La traque se poursuit donc ce matin pour retrouver Mohamed Amra, ce détenu évadé hier après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire sur un péage dans l'Eure. Vous l'entendiez il y a quelques minutes, tout s'est fait en moins de 3 minutes dans une opération préparée au millimètre et à la surprise générale de ses proches. Planar Adenovic a pu joindre l'un des membres de sa famille. Sa voix a été modifiée, c'est un document RTL et M6.
C'est pas du tout le profil de Mohamed. Certes, il a fait des bêtises. Certes, il a été vu par des juges, machin et tout, mais de là à ce qui se passe, de telles choses horribles. En plus, il y a eu deux policiers morts. C'est ce qui nous perturbe le plus en fait. Les policiers, on est conscient de leur travail. On comprend pas. C'est pas possible en fait. C'est pas possible ce qui se passe. On voit toujours ça à la télé. Aujourd'hui, ça nous arrive. Voilà. Qu'il y ait des personnes de ce type qui puissent venir avec des armes de guerre. On n'a jamais vu ça nous chez nous. On est choqué de ce qui s'est passé. On est choqué de l'évasion. On est choqué de tout, en fait, sincèrement.
Et stupéfaction, donc vous l'entendiez pour ses proches, mais pas vraiment pour le secrétaire général de FO pénitentiaire, car le détenu de 30 ans, incarcéré pour tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants, avait déjà intrigué les surveillants ces derniers jours. Emmanuel Baudat était l'invité de Julien Cellier hier dans RTL. Bonsoir, écoutez.
On sait que ce détenu a tenté de scier les barreaux de sa cellule il y a 2-3 jours.
Il y a 2-3 jours, il a tenté de scier les barreaux de sa cellule.
Oui, donc suite à ça, les collègues avaient bien évidemment repéré, l'ont placé au quartier disciplinaire. Il y avait une extraction judiciaire qui était prévue pour être attendue dans l'une de ses affaires, pour être auditionnée par le juge.
Et au moins 2 agents pénitentiaires sont donc morts dans cette attaque et 3 autres blessés dans l'exercice donc de leurs fonctions. C'est une première depuis plus de 30 ans. Et Sophie Neumayer, on en sait plus sur le profil de ces victimes.
Oui, les cinq agents pénitentiaires pris au piège de ce déchaînement de violence sont tous pères de famille ou sur le point de le devenir. Parmi les deux, abattus de sang-froid, un capitaine âgé de 52 ans, père de jumeaux, il s'apprêtait à fêter leur 21e anniversaire. Le surveillant brigadier, lui, avait 34 ans. Il se préparait à être papa. Sa femme est enceinte de 5 mois. Les trois autres agents grièvement blessés sont âgés entre 48 et 55 ans. Tous les cinq appartiennent au PREJ, au pôle régional des extractions judiciaires de Caen. Leur quotidien accompagnait les détenus pour leur trajet au tribunal ou encore pendant leurs autorisations de sortie sous escorte. Très émus, hier, leurs collègues s'interrogeaient pourquoi eux, pourquoi pas nous. Le garde des Sceaux leur a promis que tout serait mis en œuvre pour interpeller les auteurs de ces crimes. L'émoi suscité par cette attaque a gagné l'ensemble du milieu pénitentiaire. L'intersyndicale appelle à un blocage des prisons ce matin, ainsi qu'à une minute de silence.
Sophie Neumayer du service police-justice de RTL.
Alors que réclament justement les surveillants pénitentiaires comme moyen supplémentaire? On posera la question sur RTL à notre invité à 6h15 tout à l'heure, Alexandre Caby, secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA Justice. Dans le reste de l'actualité, Hortense, les députés qui ont adopté cette nuit la réforme constitutionnelle à l'origine des tensions en Nouvelle-Calédonie.
Le texte qui prévoit d'élargir le corps électoral propre au scrutin dans l'archipel. Dans la foulée, Emmanuel Macron a adressé un courrier aux élus de Nouvelle-Calédonie et que RTL a pu consulter. Il invite les élus à une réunion pour tenter de dégager un accord plus large, faute de quoi il envisage de convoquer le Congrès pour adopter définitivement avant la fin juin ce texte de révision voté dans la soirée. Sur place, Nouméa s'est réveillée après de nouvelles émeutes. Plus de 130 interpellations ont eu lieu ces dernières 24 heures. À 25 jours désormais des élections européennes, la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella, toujours bien en tête des intentions de vote selon notre dernier sondage hebdomadaire Harris Interactive Tolona. Elle accentue même légèrement son avance, 31,5%, soit plus 0,5 points par rapport à la semaine dernière. C'est toujours stable pour les listes de la majorité et des socialistes place publique avec respectivement 15 et 14%.
C'est l'autre question après le nombre de médailles que vont glaner les athlètes français. Combien les Jeux Olympiques vont-ils rapporter à la France?
Et selon une étude du Centre de droit et d'économie du sport, ce sera entre 6 et 11 milliards de retombées économiques sur une période de 17 ans. Donc concrètement, pour 1 euro de dépenses publiques investies, il y aura 3 euros d'impact économique que nous n'aurions pas eu sans les JO. Et ça, Marseille, qui vient d'accueillir la cérémonie d'arrivée de la flamme, l'a bien ressenti, Étienne Baudu.
Effectivement, le tiroir caisse a très bien fonctionné mercredi. Écoutez Francky, qui tient un bar-restaurant sur le Vieux-Port.
La journée, ça s'est très bien passé. Après, le soir, on pouvait même plus passer. Donc, les gens venaient se servir directement, quoi. Oui, non, c'est une bonne journée, oui. Allez, on va dire entre 30 et 40% de plus sur une journée normale.
Alors, selon une étude commandée par la banque partenaire de Paris 2024, l'impact sur l'économie de la ville pour cette seule journée de mercredi est estimé au minimum à 18 millions d'euros, dont 8 pour les retombées visiteurs et 18 pour les dépenses des organisateurs. Le restaurant de Frédéric Jean-Jean a ainsi accueilli les collaborateurs d'une société partenaire des Jeux.
Nous, la clientèle était assurée sur toute la semaine. Donc oui, effectivement, on a fait en une semaine ce qu'on fait habituellement sur un petit mois.
Reste à savoir si l'essai va être transformé dès cet été. Marseille qui accueille les épreuves de voile et plusieurs matchs de football. Pas sûr selon Frédéric. Pour lui, il faut miser avant tout sur le long terme.
On a vu Barcelone, le levier que ça avait été, les Jeux Olympiques en 92. Ici, à Paris 2024, mais il y a eu ces images de Marseille. Et je pense qu'ils vont forcément faire signe à l'ensemble de la planète.
En tout cas, comme l'ensemble de celles et ceux qui ont assisté à l'arrivée de la flamme, restaurateurs et hôteliers affichent un très large sourire.
Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille.
Combien d'emplois seront créés avec les JO? Combien d'emplois pérennes? On en parlera avec Martial Youd dans la tablée du petit matin tout à l'heure à 7h moins quart.
En Géorgie, les manifestants appellent à continuer la mobilisation après le vote par le Parlement du très décrié projet de loi sur l'influence étrangère. Ce texte inspiré d'une législation de Moscou qui a permis de liquider beaucoup d'opposants comme des ONG.
RTL 5h37 en football. Marseille joue ce soir sa place en Coupe d'Europe la saison prochaine.
L'OM se déplace à Reims à 21h et doit impérativement gagner dans ce match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Aucun enjeu par contre pour le PSG déjà champion qui sera aussi à l'extérieur à 21h à Nice. Et puis en cyclisme, dans la famille Paré-Peintre, je demande le petit frère Valentin, vainqueur d'étape sur le Giro un an après son aîné Aurélien. Le Français s'offre la première victoire de sa carrière en remportant en solitaire devant Romain Bardet la 10e étape du Tour d'Italie. Fierté pour Vincent Lavenue, le manager de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, joint par Nicolas Georgerou.
Quand on vit comme ça en live, on va dire une victoire d'un grand tour sur un Giro, sur une épreuve légendaire, je veux dire, c'est toujours des moments qui sont extraordinaires parce que c'est la carrière de Valentin qui décolle aujourd'hui. Tout le monde a pu apprécier ce moment et moi, évidemment, c'est une émotion particulière. C'est un garçon qui a suivi la filière de formation de l'équipe. Hein, il est passé par notre centre de formation comme son frère, comme Romain Bardet d'ailleurs aujourd'hui. les deux premiers coureurs à l'arrivée sont tous les deux des coureurs qui sont issus du centre de formation de Chambéry. Ça amène beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion. Petit à petit, il fait ses armes, il prend de la maturité. Hein, il en est aujourd'hui à sa troisième année de professionnel, donc c'est un pur grimpeur, voilà, mais aussi qui a beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence de course. Donc voilà, on est très fiers de lui, ça paye et voilà, moi j'en suis le premier heureux bien sûr.
Et au classement général, Tadej Pogacar est toujours leader de ce Giro avec le maillot rose.
Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h.
Oui, je peux prendre un croissant
alors, bah, bien sûr,
ah, parce que
nous sommes en studio depuis 5h ce matin avec le gagnant du concours du meilleur croissant du Grand Paris, Georges Doucet. Il est boulanger dans le 12e arrondissement de Paris et donc il nous a apporté ses croissants.
Les croissants gagnants.
Pour toute l'équipe, les croissants gagnants. Ils sont délicieux. Juste vos journées, parce que vous me disiesiez tout à l'heure, vous leviez à 4h du matin.
4h du matin. Ouais.
Ouais, et vous allez jusqu'à quelle heure comme ça ?
C'est variable, mais en général vers 20h, 20h30, on termine, on boucle la journée et puis après on remonte se reposer un petit peu.
Sacrée journée, hein ?
Mmh. Ouais, ça fait des grosses amplitudes et un gros volume d'horaire à la semaine, ouais, 80 heures à peu près.
Et votre
fils qui est avec vous, Mathis, il fait la même amplitude horaire ?
Ah bah, c'est même plus conséquent parfois, puisqu'il est en apprentissage, mais il s'investit énormément. Quoi. C'est vraiment un passionné.
Et j'ai oublié ma question en fait. Franchement, j'ai un trou, j'ai oublié ma question.
Bon, on y reviendra tout à l'heure. Il est 5h39. Allez, on va y arriver, Marina.
C'est bon pour la mémoire ?
RTL autour du monde.
On part en Ukraine ce matin dans la région de Kharkiv où les forces ukrainiennes sont en difficulté de l'aveu même du gouverneur de la ville. On est dans le nord-est du pays. Depuis vendredi, on en parle sur RTL, les Russes ont lancé donc cette nouvelle offensive. Le récit de Paul Leduf sur place pour RTL.
En effet, la situation est très chaotique. Nous observons une phase de guerre de mouvement un peu similaire à ce à quoi on avait pu assister début 2022 en Ukraine. Notamment dans ce petit village à environ 8 km au sud de Vovtchansk, ville assiégée par l'armée russe par le nord. Et c'est ici que des volontaires et des policiers déposent des dizaines de personnes évacuées, souvent des personnes âgées, qui sont allées chercher en voiture dans Vovtchansk, souvent au péril de leur vie. Ici, le danger est permanent. Nous n'avons pas le droit de révéler l'endroit où nous nous trouvons, car ce point d'évacuation des civils risquerait alors d'être immédiatement la cible d'une frappe de missile ou de drone FPV explosif. Non loin de là, Vovtchansk est littéralement écrasé sous des bombes largués par l'aviation. Les troupes russes sont aux portes de la ville et des tirs de snipers retentissent déjà dans les rues où rares sont les bâtiments à attaque. En 4 jours, plus de 6000 civils ont été évacués vers le sud. Dans le sens inverse, on voit des blindés, des camionnettes de soldats ukrainiens qui roulent vers le nord, vers cette nouvelle ligne de front où à l'heure actuelle, la situation est loin d'être stabilisée.
Paul Leduf en Ukraine pour RTL. Notre coup d'œil dans la presse avec cette histoire assez anecdotique mais qui fait sourire outre-Manche. Histoire relevée dans le Guardian et le Daily Mail chez nos amis anglais, donc qui ne plaisantent pas visiblement avec les avocats défaillants. Une avocate londonienne, Ramia Nagesh, passe en ce moment en commission de discipline pour s'être endormie lors d'une audience en visio. Elle était à distance dans sa chambre d'hôtel, elle défendait une infirmière impliquée dans une histoire de mort suspecte et elle s'est apparemment endormie pendant la courte pause déjeuner après, je vous assure que c'est vrai, après avoir mangé une pomme de terre au four.
Ah ouais, mais ça c'est vrai que c'est lourd.
Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Le tribunal, le greffier et son cabinet ont tenté par tous les moyens de localiser Nagesh, mais n'ont pas réussi à la joindre, écrit The Guardian, qui précise que la jeune femme est connue pour avoir publié un livre de droit sur la manière dont les cas de somnambulisme et d'évanouissement sont traités en droit pénal. Véridique. Elle se défend aujourd'hui en disant souffrir de fatigue et de somnolence excessive. On la croit. Elle est jugée donc pour faute professionnelle.
On lui amènera pas de croissant là.
Non, pas du tout. 5h42, oui, nous sommes avec les meilleurs croissants du Grand Paris. Le concours a été gagné lundi par Georges Doucet qui est avec nous en studio depuis 5h du matin. Marina, vous aviez une question?
Oui, je l'ai retrouvée. En fait, je voulais savoir si vous étiez ouvert 6 jours sur 7 ou pas.
Du lundi au vendredi et le samedi de 7h à 13h.
Vous avez le temps de faire des choses à côté?
C'est compliqué, mais oui, on trouve un peu de temps quand même.
En tout cas, vous êtes passionné, ça se voit, et c'est bon surtout. 5h42.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Chaque matin à 8h50.
Bonjour, c'est Dominique Besnéard. Je vous appelais pour vous dire qu'en tant que grand défenseur de la liberté de la presse, j'ai voulu m'abonner à l'Express. J'ai pas réussi, c'est trop difficile à dire.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard. RTL Matin, Jérôme Florent.
Un document RTL ce matin, la mère du détenu qui s'est évadé hier lors de l'attaque sanglante d'un fourgon pénitentiaire. C'était en Normandie au péage d'Incarville. Deux agents pénitentiaires ont été tués, trois autres blessés. Le délinquant sorti du fourgon est âgé de 30 ans. Il est surnommé La Mouche. Il a été condamné le 10 mai dernier pour vol et devait comparaître pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort.
J'ai craqué, j'ai pleuré. Comment on peut ôter des vies comme ça qui me rend malade? C'est grave quand même. Moi, il ne parle pas. Je comprends pas.
Témoignage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis, je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité d'RTL à 7h40. Et justement, sur ce sujet, nous allons accueillir Marie, une ancienne directrice de centre pénitentiaire.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour Marina.
Bonjour et merci de votre témoignage ce matin. Est-ce que cette affaire, qui est terrible, vous a étonné?
Alors d'abord, je voudrais dire qu'en tant qu'ancienne directrice, je m'associe totalement au deuil de l'administration pénitentiaire, parce que dans ce cas-là, c'est toute l'administration qui est en deuil. Et je suis effectivement bouleversée, hein, parce que d'ailleurs on n'est pas certain encore du bilan, et j'espère que les autres surveillants qui sont actuellement entre la vie et la mort vont s'en sortir très sincèrement. Voilà. Après, je suis en état de choc comme tout le monde, mais pas vraiment étonnée. Voilà. Pourquoi? Parce que en termes d'escorte, et les représentants syndicaux, certains l'ont rappelé hier soir très clairement, il y a un problème de prise en charge des escortes, c'est-à-dire qu'il y a un problème de texte. Il faut savoir que effectivement, bon, ce détenu avait un profil de détenu particulièrement signalé, même si ça n'a pas été pris en compte visiblement par l'établissement. Néanmoins, il est parti en escorte 3. L'escorte 3, c'est réservé aux personnes particulièrement signalées. Sauf qu'il y a deux catégories d'escorte pour les détenus particulièrement signalés, alors qu'il devrait y en avoir qu'une. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est classé détenu particulièrement signalé, c'est quelqu'un qui a un réseau, qui est connecté à un réseau, qu'il soit international ou local, c'est pareil. Oui. C'est quelqu'un qui présente une certaine dangerosité avec un potentiel d'évasion et d'agression d'autrui. Sauf que la catégorie 4, c'est-à-dire que le renfort de police, n'est réservé dans le texte que aux personnes qui ont réussi une évasion, ce qui est totalement aberrant.
La question qu'on se pose, c'est d'abord, est-ce que cette extraction était nécessaire?
Alors, pour une audition, non. Voilà.
Ça peut pas se faire en visio.
Ça aurait dû se faire en visio.
Oui, ça aurait dû se faire en visio.
Voilà.
Et on a une question d'une auditrice, Patricia, par SMS, qui dit pourquoi c'est pas le juge qui se déplace dans ce cas-là?
Alors, aujourd'hui, on a la visio, donc c'est pas forcément utile que le juge se déplace.
Oui, mais si on peut pas faire en visio pour...
Il peut se déplacer, ça c'est
tout à fait... Le juge peut se déplacer, d'accord.
Oui, bien sûr, il y a tous les jours, il y a des magistrats qui viennent en détention pour participer à des audiences en détention aussi, ou à des commissions, donc ça c'est tout à fait possible et ça existe. Néanmoins, le problème d'escorte... Si ça avait été pour une consultation médicale ou pour une hospitalisation, de toute façon, il aurait bien fallu escorter cette personne. Donc, au départ, il y a quand même un problème de texte. Ce texte, il devrait justement obliger, pour une audition en justice, obliger la visioconférence ou le déplacement du juge. Et en cas d'escorte nécessaire pour une consultation médicale ou pour une hospitalisation, il ne doit plus être réservé qu'aux personnes qui ont réussi une évasion.
Mais ce transfert, il est tenu secret normalement. Comment l'information de ce transfert a pu fuiter?
Alors comment ça a pu, vous savez, en détention, malheureusement, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, et puis en détention, on parle du milieu fermé, c'est pas vraiment fermé, puisqu'il y avait des gens qui viennent de l'extérieur en permanence pour faire des interventions en détention, donc on ne sait pas, l'information, elle peut fuiter, et puis peut-être que on verra le résultat de l'enquête, s'il retrouve dans la cellule un téléphone portable ou une puce qui aurait pu permis de converser.
Pardon, je suis désolé de vous couper, mais vous êtes ancienne directrice de centre pénitentiaire. Comment se fait-il que les portables, on trouve encore des portables en prison alors que c'est interdit? On a l'impression que c'est une fatalité. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement.
Non, c'est pas qu'on peut pas faire autrement, c'est que c'est pas forcément toujours détectable avec les appareils actuels. Donc il y a encore des mobiles qui rentrent en détention et puis ça peut arriver par des personnes de l'extérieur qui rentrent au parloir. Ça peut, il y a eu des rares cas de corruption de personnel, mais bon, je veux pas jeter l'opprobre sur le personnel pénitentiaire parce que il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui ils sont particulièrement en deuil. Oui. Donc ça, je tiens à respecter ce deuil-là. Mais aujourd'hui, bon, je veux dire, les faits ont démontré que le milieu fermé n'est pas totalement étanche. Et que des informations peuvent fuiter, et d'autant plus que l'information, elle sort à un moment donné de l'établissement. D'ailleurs, l'information de l'audition, elle vient de l'extérieur déjà. Donc entre le tribunal et la détention et l'avocat, il peut y avoir des personnes qui ont entendu effectivement qu'il y allait avoir une extraction avec une audience de cette personne.
Eh bien, écoutez, voilà. On poursuivra la discussion tout à l'heure avec le secrétaire général du syndicat UFA. UNSA Justice qui appelle à des blocages aujourd'hui. Il sera avec nous à 6h15. Merci beaucoup pour ce témoignage, Marie, ancienne directrice de centre pénitentiaire. Et on va suivre évidemment cette affaire sur RTL. Très bonne journée à vous.
Merci bien, merci. Au revoir.
Au revoir. Il est 5h49.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
C'est l'heure de retrouver Aline Perraudin et Olivier Dauvert pour votre info conso et santé du lundi au jeudi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Aline, question très très importante ce matin. Quelle est la meilleure alimentation pour vivre plus longtemps ?
Oui, parce que si on ne peut pas changer nos gènes, mais par notre mode de vie et par notre alimentation, on peut vraiment augmenter notre espérance de vie.
Olivier, les pourquoi de la conso ce matin ?
Pourquoi les marques aiment autant le sport, puisque vous les voyez partout dans les stades et même parfois dans le nom des champions, et notamment le football.
RTL. Arnaud Touche. Une lettre d'Amérique.
Et cette semaine, je vous écris depuis le tribunal de New York. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président est poursuivi au pénal. Donald Trump est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice pornographique avec qui il aurait eu une relation avant sa campagne présidentielle. Dans cette lettre d'Amérique, je vous raconte les coulisses de ce procès inédit.
Téléchargez dès maintenant une lettre d'Amérique sur l'appli RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
La conso, la santé du lundi au jeudi avec nos spécialistes Olivier Dauvert. À vos marques, prêts ? Partez.
Partez. Effectivement, les marques adorent le sport et elles s'y associent de plus en plus. Et vous allez voir que c'est parce qu'elles y trouvent un sacré intérêt.
Mais d'abord, Aline, aujourd'hui, vous nous parlez de la meilleure alimentation pour vivre plus longtemps. Et là, nous sommes vraiment tout ouïes.
On sait qu'un mode de vie sain contribue à vivre plus longtemps en meilleure santé. Une nouvelle étude vient même de montrer que cela permet de contrebalancer de mauvais gènes. Comprenez une génétique qui n'est pas favorable. Avoir avec de bonnes habitudes, de l'activité physique et une alimentation saine, il est possible, selon les chercheurs, de compenser de plus de 60% les effets des gènes qui raccourcissent la vie et de gagner des années de vie supplémentaires.
Plus de 60%, c'est énorme.
Énorme.
Alors, quel type d'alimentation permet de ce miracle, de vivre plus longtemps ?
Alors, le régime qui a le plus fait ses preuves, je vous en ai déjà parlé, c'est le régime méditerranéen qui met l'accent sur la consommation de fruits et de légumes, de céréales complètes, de légumineuses, de noix, de poissons et d'huile d'olive. Pour nous, il est assez facile à suivre, parce qu'il correspond à notre culture alimentaire. Mais il existe plusieurs façons de bien manger selon les régions du monde. On peut donc avoir le choix et adopter son alimentation en fonction de ses préférences. Mais les régimes qui améliorent l'espérance de vie ont tous des points communs.
Quels points communs ?
Alors, ils sont variés et privilégient les produits végétaux qui apportent des vitamines et des polyphénols, autant de substances antioxydantes qui nous empêchent de rouiller. Les baies, les fruits rouges sont particulièrement intéressants pour cela. Les régimes protecteurs comportent assez peu de viande. Ils écartent les produits trop transformés, ouais, ainsi que les boissons sucrées.
Et en termes de quantité, alors ?
Alors, ce sont des régimes où l'on mange ni trop, ni trop peu. Tous prônent la modération. Par exemple, le régime traditionnel sur l'île d'Okinawa au Japon consiste à sortir de table le ventre léger en ayant encore un peu faim. Les Japonais parlent de hara-ashibu, ce qui signifie littéralement estomac à 80%. Ça veut dire que l'on mange jusqu'à ce que son estomac soit rempli à 80%, mais pas au-delà.
En vieillissant, c'est vrai qu'il faut manger moins, j'ai entendu ça.
Alors, cette idée vient du fait que des études menées sur des animaux ont montré qu'en réduisant de 30 à 40% leurs apports alimentaires, on pouvait augmenter leur espérance de vie. Mais, appliquée à l'homme, la restriction calorique est très difficile à suivre et elle expose à la dénutrition, m'a souligné le professeur Éric Boulanger, spécialiste de la médecine du vieillissement au CHU de Lille. De même, le jeûne intermittent, qui consiste à ne manger que sur une période limitée dans la journée, n'a pas fait la preuve qu'il permettait de vivre plus longtemps. De plus, si à un âge non avancé, le surpoids ou l'obésité augmente le risque de maladie et donc de vieillissement non réussi, après 65 ans, mais il a été prouvé qu'un peu de poids n'est pas mauvais, m'a précisé le spécialiste du vieillissement. Certes, l'obésité est délétère, mais ce n'est pas le cas d'une petite surcharge pondérale. Elle réduit même le risque de maladie et de mortalité. Alors, en prenant de l'âge, il ne faut donc pas chercher à réduire ses apports alimentaires, ni à trop maigrir.
Ni à trop maigrir, pourquoi ?
Eh bien, parce que lorsqu'on perd du poids, on perd aussi du muscle et on s'expose à la sarcopénie, c'est-à-dire à la fonte musculaire. Des études ont montré qu'il est préférable d'avoir un surpoids modéré et de préserver sa masse musculaire plutôt que d'être en sous-poids ou d'avoir un poids normal en ayant perdu du muscle. Comme me l'a dit le professeur Boulanger, être un peu enveloppé après 65 ans, eh bien, c'est une bonne assurance vie.
Et c'est un Boulanger qui vous le dit en plus. Merci beaucoup Aline. Les pourquoi de la conso, Olivier Dauvert. Tiens, pourquoi les marques aiment le sport? Mais c'est vrai ça.
Amis footeux, l'an prochain, il ne faudra plus dire Ligue 1 Uber Eats, mais Ligue 1
McDonald's.
McDonald's,
c'est bizarre,
effectivement.
Hein,
en très mauvais français, on appelle ça le naming, c'est-à-dire donner son nom à un événement sportif ou à une enceinte sportive. Tiens, toujours pour les footeux, autre test, l'Olympique Lyonnais joue dans quel stade?
Groupama Stadium.
Groupama Stadium. Et l'Olympique de Marseille a
l'Orange Vélodrome.
Absolument.
C'est vrai qu'on dit plus souvent le Vélodrome.
Vous voyez comme c'est facile de démontrer que les marques sont partout dans le sport.
Et donc pourquoi?
Parce que le sport a besoin d'argent, c'est aussi bête que ça, et que les marques en ont de l'argent. Et donc tout se vend. Longtemps, on n'a vendu que les espaces publicitaires sur les maillots. Pour les anciens, rappelez-vous, Manu France sur les maillots de Saint-Etienne. Ensuite, on a vendu les droits télé, la possibilité pour une chaîne de télé de diffuser un événement en exclusivité. Et donc plus récemment, ce fameux naming où des marques donnent leur nom à des événements. Alors on n'a pas le chiffre officiellement, mais McDo paierait 30 millions d'euros par an pour que la Ligue 1 de football s'appelle désormais la Ligue 1 McDonald's. Et comme c'est un contrat de 3 ans, faites le calcul, presque 100 millions d'euros.
Et quel intérêt y trouvent les marques?
Ben c'est ça qui est intéressant, et pour ça il faut passer de l'autre côté du décor. De quoi ont besoin les marques? D'être connues, reconnues et aimer. C'est exactement ce que permet le sport. Alors évidemment, McDo est déjà connu, hein, ne serait-ce qu'avec plus de 1100 magasins en France.
Oui.
Mais la notoriété, c'est aussi ce qu'on appelle la présence à l'esprit. Et ça, ça s'entretient. Donner son nom à la Ligue 1, c'est s'assurer de citations en permanence dans les médias, de logos sur les billets, dans les stades. Bref, c'est faire vivre son nom. Et pour le coup, on va bien entendre parler de McDo l'an prochain, comme on entend par exemple souvent parler de Sodebo au moment du Vendée Globe.
Et ça peut faire du bien à une marque?
Oui, parce qu'il est démontré que les Français aiment davantage les marques qui s'associent au sport. Alors c'est un chiffre que je vous ai trouvé dans Les Échos. 84% des Français considèrent que le sport rend sympathique les marques qui en sont partenaires, selon une étude Sponsora. C'est comme si, plus ou moins inconsciemment, on était reconnaissant aux marques de financer le sport. Le sport que l'on regarde à la télé, que l'on écoute à la radio. Le sport qui nous fait rêver, surtout quand l'association est quasi parfaite.
C'est-à-dire?
Alors, quand l'épreuve sportive est proche du produit vendu par la marque. Pour être clair, je vous prends un exemple. En 1993, création d'une nouvelle course à la voile transatlantique. La route du café, en écho à la fameuse route du Rhum qui relie Le Havre à Carthagène en Colombie. Et qui en devient le sponsor ? Jacques Vabre, le roi du café, parce que c'est pile poil dans ce qu'on appelle son territoire de marque, et ça devient la Transat Jacques Vabre. Mmh. C'est ça qu'on appelle une association quasi parfaite.
Merci beaucoup Olivier Dauvert, merci beaucoup Aline. On se retrouve demain.
À demain.
Et Olivier, dès 9h.
Avec Julien Courbet.
Avec Julien, à tout à l'heure.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et nous sommes toujours en studio avec Georges Doucet qui a remporté lundi le prix du meilleur croissant du Grand Paris. Georges, accompagné de son fils Mathis, vous êtes boulanger dans le 12e arrondissement. Il y avait 117 candidats, hein, je me rappelle.
117 candidats, ouais. Et il y avait aussi des apprentis qui participaient. Il y a eu une remise de prix de 3 apprentis aussi.
Et le jury était composé de quel tranche?
De consommateurs et de professionnels.
Ouais.
Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont un peu de mal à trouver des gens pour effectuer la sélection. Donc
mais faut m'appeler, hein.
On est là, hein. Il y avait peu de candidats pour goûter les croissants.
Ouais, il manquait un peu de candidats, mais bon, ça c'est...
Bon. Ça s'est trouvé au final. Ouais.
Vous travaillez en famille, hein, avec votre fille Océane, voilà. Mathis aussi qui donne un coup de main, et votre femme. Vous avez c'est une profession qui attire les jeunes aujourd'hui, la boulangerie.
Alors, il y a, de par les médias comme Top Chef et tout ça, il y a pas mal de jeunes qui s'intéressent à la pâtisserie, à la boulangerie. Et ce qui est difficile, c'est de les stabiliser, en fait, et leur donner vraiment, avec les grosses amplitudes horaires qu'il y a, c'est assez compliqué de les maintenir, mais on arrive à trouver des jeunes aujourd'hui.
Quoi, ils aiment le métier, mais ils veulent travailler moins.
Bah en fait, il y a le côté réel des choses en fait qui arrive tout de suite. C'est des heures, des grosses amplitudes horaires. C'est faut rester debout. C'est pas évident quand vous démarrez dans la vie active. Donc, mais bon, il y en a.
Mathis, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 19 ans.
19 ans et vos copains, qu'est-ce qu'ils disent? Pareil, c'est un beau métier, mais faut pas le faire.
Généralement, on a beaucoup de divergences sur ce point-là. Certains qui trouvent qu'ils font trop d'horaires. C'est vrai qu'en apprentissage, on n'est pas payé autant qu'un ouvrier normal. En général, lorsqu'on commence, on est sur du 300 €. Et ça dépend des entreprises où on est, parce que certains travaillent plus que d'autres et c'est très aléatoire au niveau des horaires. Donc c'est vraiment aléatoire sur ce point-là.
Bon, merci à tous les deux. En tout cas, vous restez avec nous et je rappelle que vous avez apporté des croissants pour toutes les...
On se régale.
On peut pas les distribuer aux auditeurs.
Oui, c'est vraiment triste. Donc on les mangera pour vous. Ils sont très bons. Donc la petite touche de Georges, c'est le miel associé au beurre AOP Poitou-Charentes.
Petite touche de miel dans les croissants, c'est délicieux. Ça nous fait oublier un peu le mauvais temps, Marie.
Ah, mais oui, parce que...